On a récité déjà le passage, on va rappeler ce sur quoi on s'était arrêté. On avait considéré un petit peu de quoi on parle, en parlant de l'impudicité ou de la débauche. On avait vu un petit peu l'origine. On avait considéré que voilà, c'est quelque chose qui est courant dans notre société maintenant. Et on avait réfléchi un peu sur comment faire pour, c'était le point 2, pour comment faire mourir la débauche. Ouais, tu peux laisser comme ça. Merci. Comment faire mourir la débauche. Peut-être tu peux laisser au fond, comme ça, s'il y en a qui arrivent. Il y en a encore d'autres sur l'imprimante là-haut, je crois. Ah, Jacob, hein. Quand tu donnes à Jacob, comme ça, il peut donner. Merci beaucoup. Comment faire mourir la débauche, l'impudicité. On avait vu trois choses, je crois. Trois ou quatre choses. Ce ne sont pas les seules. Hein. Ce n'est pas une liste exhaustive de ce qu'il faudrait faire, mais ça nous donne une idée, à partir de quelques versets bibliques, de ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu premièrement? On avait vu la fuite. La fuite, comment? Continuelle. Il faut fuir, pas aujourd'hui seulement, mais comme Joseph, aujourd'hui, demain et encore. Hein. On avait développé ce que ça voulait dire. On ne va pas reprendre. Hein. La rupture, on avait appelé ça comment? La rupture radicale, selon que Jésus dit, ce que Jésus dit dans le contexte de la débauche et de l'adultère, hein, dans Matthieu chapitre 5. Et on avait dit que Jésus montrait par là qu'il faut discerner les occasions de chute, qu'il faut traiter aussi radicalement les occasions de chute. Et puis troisième point, troisième manière qu'on avait considérée pour lutter contre l'impudicité, c'était qu'il fallait agir autant sur le plan défensif que sur le plan offensif. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le fait de ne pas faire, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans l'autre sens. Et la Bible enseigne beaucoup cela, pas simplement dans le domaine de l'impudicité, mais dans beaucoup d'autres choses. Hein. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, mais parlez selon la vérité. Hein. C'est pas non seulement qu'on ne ment pas, mais on va dire la vérité, offensivement, positivement. Et on avait souligné cette vérité qui vient d'un catéchisme et qui dit que quand le devoir est commandé, quand il y a un devoir qui nous est commandé, le péché contraire est défendu. D'accord ? Et puis quand il y a un péché qui est interdit, le devoir contraire est commandé. Hein ? Comprenez bien cela. Si la Bible nous dit tu aimeras aimer vos ennemis, ça c'est un commandement. Eh bien, le péché contraire, c'est-à-dire la haine de l'ennemi, faire du mal à l'ennemi, parler mal à l'ennemi, tout ça, c'est interdit, puisque la Bible dit d'aimer. Et puis, si quelque chose nous est interdit, tu ne commettras point d'adultère, c'est une interdiction. Okay? Eh bien, dans ce sens-là, tout devoir contraire est commandé. C'est-à-dire, je vais, comme dans Hébreu, on va honorer le mariage. Hein. On va faire attention à la manière avec laquelle on discute avec les gens, on regarde les gens, pour ne pas chuter dans ce péché. Donc, on arrive, il nous restait le point petit d ici, qui était une quatrième manière et importante. Ce sont les quoi ici? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous avez des trous encore là. Donc le petit d, c'est le début de votre feuille. Les ressources divines. Hein, les ressources divines. Alors, première ressource qui nous est donnée dans Colossiens chapitre 3, verset 1, c'est quoi ici? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, vous êtes mort aussi, dit votre vie est cachée avec Christ. Comment on pourrait souligner, oui, l'union hein, avec Christ. L'union avec Christ. Donc, il faut être en Christ pour pouvoir faire mourir le péché, on est d'accord? C'est pas quelque chose que l'on demande à des incroyants. La Bible ne dit pas aux incroyants, faites mourir le péché. Hein. Paul écrit à qui? Il écrit à l'église de Colosse. Hein, et il s'adresse à cette église. Et il dit aux membres de l'église, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, faites donc mourir hein, le péché. Donc ça veut dire que c'est une conséquence de leur union avec Christ. Donc la première chose qu'il faut, c'est être à Christ et aller à Christ, rechercher cette communion avec Christ, développer la communion avec Christ si nous voulons lutter contre l'impudicité. C'est pas juste avec nos muscles, nos bras, que nos méthodes, mais il faut compter sur cette intimité avec Christ. Il faut rechercher Christ de plus en plus. Donc dans la repentance, bien sûr, et dans le pardon. Et tout péché, normalement, rompt la communion avec Christ. Tout péché rompt la communion avec Christ. Et puis, ça nous rend sans force pour lutter contre le péché. Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on est obligé. Ensuite, deuxième ressource ici, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce qu'on va... On va compter sur quoi? Sur son action. Donc, l'action de l'Esprit Saint. Et dans Romains chapitre 8, verset 13, on le voit très bien, l'apôtre Paul dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. » Alors, comment il faut faire mourir les actions du corps? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Et on le voit bien ici. Donc, c'est pas par nous-mêmes, mais c'est par l'action de l'Esprit en nous. Donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu en nous pour pouvoir lutter contre l'impudicité. Ensuite, et un point très important, il y a aussi la, on pourrait dire, méditation. Moi, j'ai mis méditation, on pourrait trouver un autre mot qu'on pourrait mettre ici, mais la méditation de la parole. La méditation de la parole. Le psaume 119, verset 9, dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Alors, bien sûr, le jeune homme est... c'est le jeune homme qui est adressé ici, mais cela concerne aussi la jeune femme, cela concerne aussi le vieil homme et la femme âgée. Dans 1 Roi, chapitre... je crois que c'est chapitre 11 et au verset 4, on voit l'exemple de Salomon qui, la Bible dit, au temps de sa vieillesse, ces femmes ont incliné son cœur dans l'idolâtrie. Donc, ces femmes ont eu une influence sur lui, sa vie, mais aussi au temps de sa vieillesse. On peut supposer que pour leur faire plaisir, pour ne pas le déplaire, etc., il s'est laissé entraîner, la Bible dit, par l'amour des femmes. Donc, c'est un commandement ici qui concerne tout le monde, nous tous, même si c'est écrit « jeune homme ». Et il est question de rendre pur son sentier, d'accord ? Donc, sa vie, c'est dans tous les aspects, y compris dans cet aspect de l'impudicité, des péchés de la chair que nous sommes en train de considérer ici. Donc, il faut la parole de Dieu. Ce dont on a besoin, ce n'est pas un spécialiste. On vit un temps où on a des spécialistes pour tout, hein. Donc ça va pas, on va avoir un spécialiste. Et il arrive que dans le domaine spirituel, maintenant, même les chrétiens parfois ont tendance à aller voir des spécialistes du monde qui va pouvoir régler telle chose qu'ils ont dans difficulté ici, telle difficulté là-bas. Ça peut nous arriver, c'est pas que c'est interdit de le faire, c'est pas que c'est forcément mal de le faire, mais la Bible souligne quand même premièrement que ce dont nous avons besoin, c'est de la parole de Dieu. D'accord ? La parole est une lampe. La parole, le psalmiste dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et ce n'est pas des techniques de spécialistes qu'on a besoin de connaître, mais c'est la puissance de la parole de Dieu agissant dans notre vie. L'action de l'Esprit se fait toujours par le moyen de la parole. Par le moyen de la parole. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole. Et j'ajoute, c'est pour cela qu'on insiste sur la mémorisation de la parole. Franchement, on ne connaît pas beaucoup si on ne fait pas des efforts pour retenir. Et si on ne retient pas, l'esprit n'utilisera pas la parole. Comment pourra-t-il utiliser la parole si on n'a pas... C'est pour ça que dans le Deutéronome, quel est le commandement que Dieu donne aux chefs de famille? Il dit, cette parole sera dans ton cœur. Il dit, tu l'inculqueras à tes enfants. Tu en parleras jour et nuit, quand tu voyages pas, quand tu te couches, quand tu te lèves. C'est presque comme s'il parlait d'un lavage de cerveau, mais positivement, en tout cas avec la parole de Dieu. Vous voyez ? Parce que si la parole n'est pas là, l'esprit ne peut pas s'en servir. Et vous prenez n'importe quel exemple dans la Bible, y compris le Seigneur Jésus. Lorsqu'il doit guider quelqu'un, il ne dit pas « moi, je suis Dieu, donc je vous dis directement les choses ». Quand il voit les disciples d'Emmaüs qui sont désemparés parce que Jésus a été crucifié, ils retournent chez eux après, et Jésus les rencontre, et puis ils expliquent leur situation à Jésus. La Bible dit, Jésus leur dit « homme sans intelligence et lent à quoi ?» À croire tout ce qu'on dit les prophètes. Et puis après, il fait quoi ? La Bible dit « et commençant par Moïse, les prophètes et les psaumes, il leur parle de tout ce qui le concerne. » Mais il prend les Écritures et puis il leur parle. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit fait exactement la même chose. Il prend les Écritures et il nous parle à travers les Écritures. Mais si on ne connaît pas les Écritures, si on ne lit pas les Écritures, si on ne médite pas les Écritures, si on ne retient pas les Écritures, le Saint-Esprit n'a pas de base pour le faire. Donc les gens qui disent, je compte sur l'Esprit pour... Si vous comptez sur l'Esprit sans lire la parole, il y a de fortes chances que ce ne soit pas l'Esprit qui vous conduise, qui nous conduise. Parce que l'Esprit utilise toujours la parole de Dieu. C'est ce que l'on voit dans la Bible. Ce que l'on voit dans la Bible. Donc ça, c'est pour les ressources. Donc on a dit la communion avec Christ qu'il faut rechercher, l'action de l'Esprit et la méditation de la parole ou la connaissance, on pourrait employer un autre mot, mais tout cela travaille conjointement et c'est ainsi que l'on peut lutter contre l'impudicité. Alors, je voudrais rajouter quand même ce point ici. Le troisième point, ce sont les conséquences de l'impudicité. Si on lit Colossiens 3, verset 6, je crois que je l'ai mis sur votre papier, je ne sais pas si je l'ai laissé sur votre papier. Je n'ai pas votre papier, donc je ne sais pas si vous avez laissé des trous ou pas. Colossiens chapitre 3, verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Hein. Donc il parle de tout ce qu'il faut faire mourir. Il conclut avec ce verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et si on lit aussi Romains chapitre 1, verset 18, on peut lire ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice qui retiennent injustement des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, puisque le Colossien parlait entre autres de l'impudicité ici, si on regarde Colossiens 6, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme titre là dans le petit trou ici ? Les impudiques s'attirent quoi ? La colère. Alors, oui, mais j'ai ajouté la colère. Oui, la colère. Alors moi, j'ai mis la colère présente de Dieu. Parce que tel que c'est présenté, ce n'est pas simplement une colère qui est à venir, disant, si vous êtes impudique, vous connaîtrez un jour, quand tout sera, ce sera le jugement final, la colère de Dieu. Il y a cet aspect aussi, mais il y a l'aspect de la colère présente de Dieu. Quand, par exemple, dans Hébreux 13, alors je ne sais plus la référence du verset, mais Hébreux 13, on l'a vu la semaine dernière, quand il dit que le lit conjugal soit exemple de souillure, il dit « car Dieu punira les impudiques et les adultères ». C'est pas, faut pas toujours prendre la punition comme quelque chose qui est loin, 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 loin dans le lointain, quoi. Quand ce sera le jugement final. Parfois, c'est présentement même que Dieu juge les choses. Et dans Romains, c'est ce que l'on a, par exemple. Quand dans Romains, il dit « la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice qui des hommes qui retiennent injustement la vérité captive ». Et puis un peu plus loin, au verset 24, il dit « c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur ». Alors si on prend rapidement Romains, peut-être qu'il faudrait mieux le prendre rapidement, on peut voir qu'il y a trois fois où il est question que Dieu livre les hommes. Okay. Romains chapitre 1, verset 24. Alors, verset 23, il dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image corruptible représentant l'homme etc., corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et puis verset 24, ce qu'il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et puis au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et puis verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés. Autrement dit, il est en train de dire que les gens font des choses actuellement, et ce qu'ils sont en train de faire n'est rien d'autre que la condamnation de Dieu qui s'abat sur eux. On peut penser qu'ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, mais il est en train de dire que quand Dieu livre les gens à leur passion et qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire, c'est la colère de Dieu qui s'exprime de cette manière-là. C'est ça qu'il faut bien saisir. Donc, quand les gens commettent l'homosexualité, etc., et puis il dit, c'est ça qu'il dit ici, hein, il les livre car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Dieu livre au penchant naturel. Et donc, ce que l'impudicité même qu'on est en train de vivre, que certains vivent, c'est comme Dieu, c'est ce que tu veux faire, c'est comme si Dieu disait, c'est ce que vous voulez faire, eh bien, allez-y. Faites-le, je vous livre ici. Et à ce moment-là, on n'a plus de retenue. Ça ne nous paraît plus du tout. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de frein, et il n'y a pas de sens moral. Et le fait de ne pas avoir cela, c'est un jugement de Dieu. C'est la colère de Dieu qui se manifeste de cette manière-là. Et la Bible dit ici que, à cause de ces choses, à cause de l'impudicité, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc celui qui vit, qui pratique ces choses, il finit par connaître, ne plus avoir de retenue, ne pas être gêné, ne pas avoir sa conscience qu'il gêne, parce que Dieu l'a livré à son penchant. Donc ça, c'est une conséquence qu'il nous faut considérer ici. Deuxième conséquence, on pourrait dire, c'est que les impudiques sont en danger de... Alors si vous regardez le verset 1 Corinthiens 6, verset 9, je vais essayer de vous laisser trouver tout seul. « Et ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, c'est notre mot. Après, il y a aussi les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce verset, quand même? Ça nous dit que les impudiques sont en danger de quoi? Demeure spirituelle, de privation, oui. De perdition éternelle. Parce qu'il dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on comprend bien que ce sont ceux qui sont au Seigneur, ce sont ses enfants. Voilà. Jésus disait à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'accord ? Donc le royaume de Dieu, c'est la sphère des enfants de Dieu, c'est le lieu des enfants de Dieu. Eh bien, il dit ici, on se trompe, il dit bien, ne vous y trompez pas. Hein. Vous avez vu le verset ? 1 Corinthiens 6, verset 9, dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, etc. Il dit, ça veut dire quoi ? Parce que parfois, on se trompe sur ce qu'est un véritable enfant de Dieu. Et Paul dit aux Corinthiens, attention, vous faites fausse route, vous vous trompez, vous vous abusez vous-même, ne vous y trompez pas. Si vous commettez ces choses, vous n'avez aucune assurance de salut, aucune assurance pour dire, je suis un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre être un enfant de Dieu si vous vivez dans l'impudicité. Alors bien sûr, les enfants de Dieu pêchent. Ils peuvent chuter, mais c'est une chose de chuter, de revenir, de demander à Dieu pardon dans une repentance sincère. C'en est une autre de vivre continuellement dans cet état-là. Et l'Écriture dit que celui qui vit dans cet état n'a aucune assurance, en fait. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas, ceux qui font ça ne font pas partie, ne font pas partie, n'hériteront pas, ne feront pas partie du royaume de Dieu. Celui donc qui s'adonne, celui qui, dont l'impudicité est la manière de vivre. Il y a des gens, c'est leur manière de vivre. Hein. L'impudicité est la manière de vivre, eh bien, il ne peut pas prétendre être un enfant de Dieu. Ailleurs, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 11, hein, quand il règle la question de cette personne dans l'église de Corinthe qui avait une relation incestueuse, il dit « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Il dit qu'il ne faut pas avoir de relation avec quelqu'un. Alors, les Corinthiens, ils avaient compris ça de la manière suivante, ils n'avaient plus de relation avec personne, même avec les gens du monde. Il dit, l'apôtre Paul dit, non, je ne vous ai pas dit de ne pas avoir de relation avec les gens du monde, qui sont idolâtres, cupides, etc. Il dit, autrement, comment est-ce que vous pourriez leur témoigner? Il faut un certain degré de relation pour leur témoigner. Mais il dit, mais quand quelqu'un dit, affirme, je suis un enfant de Dieu, et qu'il refuse de sortir de l'impudicité dans laquelle il vit, vous ne pouvez pas le considérer comme un enfant de Dieu. D'accord? Il dit, il faut rompre la relation pour ne pas le laisser entendre qu'il est ce qu'il n'est pas, véritablement. S'il vit ouvertement, vous lui dites, il ne change pas, il faut qu'il sente qu'il est en danger, et que cette confiance qu'il a, cette prétention qu'il a d'être un enfant de Dieu, est illusoire. Il est en danger. Donc il dit, n'ayez pas de relation avec lui. Il faut aller jusqu'à la rupture, et parfois dans l'Église, il faut aller jusqu'à la discipline. C'est pour ça que l'Église doit discipliner. Et là, c'est un cas de discipline que l'apôtre Paul traitait dans l'Église de Corinthe, où il dit, il faut discipliner, parce que sinon on laisse entendre la personne que ce qu'elle fait n'est pas finalement si mal que cela. On peut être chrétien et faire ceci. Or, l'Église du Seigneur ne doit pas être ainsi. Et Paul, on se rappelle comment il avait sermonné, on pourrait dire, hein, l'Église de Corinthe. Il dit, vous auriez dû juger cette affaire. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. C'est à votre honte, dit-il. Il dit, vous devez le faire. Voilà, donc ici, on voit que ça, c'est une conséquence aussi de l'impudicité. Et puis, je ne sais plus comment j'ai mis ça sur votre papier. Je crois que je vous ai mis deux questions. Désolé, parce que j'ai pas vos trous, là. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être raté des choses. Merci. Voilà, ça c'était bien. Et puis voilà, donc quel sort ça, est réservé aux impudiques d'après Apocalypse 21.8? Quelqu'un veut lire Apocalypse 21.8 et quelqu'un d'autre Apocalypse 22.15? Est-ce que quelqu'un peut lire? Le premier qui trouve, il lit. Ouais. Oui. Okay. Apocalypse 22.15, merci beaucoup. Voilà, merci. Hein. Donc, dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, et puis le premier verset qu'a lu Jeannette, c'était « Pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, leur part sera dans les temps de feu. » Donc, bien sûr, il ne dit pas « ceux qui commettent tous ces péchés en même temps », mais il dit, mais ceux qui vivent cela, c'est une marque qu'ils n'ont jamais été au Seigneur, puisqu'ils ne se repentent pas. Et donc, leur sort, c'est le jugement éternel, c'est le lac de feu, donc c'est la souffrance, c'est l'enfer, c'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est montrer à quel point il est important de considérer cet aspect dans notre vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, faites mourir ça. Parce que c'est incompatible avec le fait d'être un Jésus-Christ et parce que la colère de Dieu vient sur cela présentement. Et en fin de compte, celui qui pratique cela de manière continuelle montre qu'il n'a pas connu Christ et il est dans le danger de supporter le châtiment éternel. Alors, en conclusion, hein, rapidement, qu'est-ce qu'on peut, si on essaie de rassembler un peu tout ça, on peut noter qu'il est, que prendre conscience, on doit prendre conscience qu'il y a une attitude qui, quel mot va utiliser ici, regardez Éphésiens 5, verset 3 déjà, et puis Tite 2, 3 et 4. Quelqu'un peut lire ça? Alors, ce n'est pas forcément exactement sur le même thème, mais ça nous dit un peu ce qui est attendu du chrétien ici. Voilà, mais ça, c'est vraiment dans le thème. Et puis l'autre, Tite 2, versets 3 à 4. Tite 2, 3, 4. Voilà, c'est bien, merci beaucoup. Qui est attendu du chrétien dans ces deux versets? Il y a quelque chose qui revient à chaque fois. La sainteté, c'est vrai, on pourrait dire ça, mais je cherche une autre expression. C'est dans les deux versets que vous avez lus. Oui? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Voilà, l'attitude qui convient ici. C'est ça que je veux souligner ici. Il dit prendre, mon trou, c'est ça, prendre conscience. Alors, qu'est-ce qui est attendu du chrétien? C'est qu'il ait une attitude, un comportement qui convienne à quoi? À la sainteté, au fait qu'il soit un chrétien. Ça, c'est très important ici. Il dit, il faut une attitude qui convient. Donc, prendre conscience, le titre, c'est prendre conscience qu'il y a une attitude qui convient à celui et puis aussi à celle qui prétend être enfant de Dieu. Et quand on dit que ça convient, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est, ça veut dire que c'est pas ce qui me convient, c'est pas là, d'avoir l'attitude qui me convient. Parfois on dit ça me convient. Ça me convient de faire comme ceci, ça me convient de parler comme ceci. C'est comme ça que je vois les choses. Le texte dit l'attitude qui convient à la sainteté, ou l'attitude, il dit voilà, que l'impudicité ne soit pas même nommée parmi vous comme il convient à des saints. La Bible dit qu'est-ce qui convient à des saints? Il convient à des saints que l'impudicité ne soit pas même nommée parmi eux. D'accord? C'est-à-dire qu'ils doivent s'en écarter le plus loin possible. Donc, qui convient, ça veut dire qu'il est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Et donc, il faut savoir qu'est-ce que Dieu dit et comparer constamment son attitude à l'Écriture pour savoir si elle convient. Si ce que je fais convient. Si ce que je dis convient. Si ma manière de parler convient. Si ma manière de m'habiller convient, si ma manière d'avoir une relation avec une sœur ou un frère de l'Église convient, si ça convient à ce que Dieu attend de moi en tant que chrétien. Pas si ça me convient, pas si c'est comme ça qu'on fait habituellement. Hein. D'accord, je parlais avec un frère il n'y a pas très longtemps, et puis il me disait, il essayait de parler à quelqu'un d'autre qui était dans une autre église, et puis... Et la personne lui répond, mais chez nous, même les anciens, ils font comme ça. Voilà. Et oui, donc si les anciens font comme ça, ça veut dire que je peux faire comme ça. Donc ça me convient puisqu'ils font comme ça. Mais ce n'est pas ça que la Bible demande. Elle demande que chacun doit faire comme Dieu demande. Et on doit s'examiner pour savoir si on fait comme Dieu demande. Ça, c'est une chose qui est importante. Deuxième chose ici, en conclusion, nous voulons voir que nous avons chacun la responsabilité de lutter contre le péché de notre propre vie. Faites donc mourir ce qui dans vos membres terrestres. Et on doit faire quoi pour les autres? Il dit aider ou encourager. Aider, j'avais pensé à aider les autres. D'accord? On aide les autres. C'est important ici. Et comment est-ce qu'on aide les autres? Eh bien, en ne les exposant pas à l'impudicité ou en n'agissant pas d'une manière qui peut les exposer à l'impudicité. Par exemple, je prends un exemple. Jésus dit dans Matthieu 5, dans le même contexte qu'on a lu la semaine dernière, quand il dit « si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le », on avait dit que c'était le contexte de la pureté, de l'adultère, il parlait de cela. Il dit ceci dans Matthieu 5, 32, donc quelques versets plus loin. Il dit, « Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à l'adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. » Donc, il dit que celui qui répudie sa femme, il commet combien de... Si, prenez quelqu'un qui répudie sa femme, qui en épouse une autre, commet combien de péchés? Deux. Le péché d'exposer quelqu'un d'autre à l'adultère et le péché de commettre l'adultère lui-même. C'est ce qu'il dit. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire que quand je vais chercher à m'éloigner de l'impudicité, je dois m'éloigner moi-même, mais je dois agir de manière à ne pas faciliter l'exposition de l'autre non plus à l'adultère ou à l'impudicité. Etc. Ça, c'est quelque chose que l'on doit souligner. Jésus met en évidence cette responsabilité-là. Ça veut dire que c'est péché que d'exposer quelqu'un au péché. Et l'apôtre Paul dit exactement la même chose dans l'affaire des viandes sacrifiées aux idoles dans 1 Corinthiens chapitre 8. Il dit, manger de la viande sacrifiée aux idoles, c'est rien. Il dit, je peux manger de la viande sacrifiée aux idoles, ça ne me fait rien. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il dit, mais si ton frère, lui, il a un problème de conscience avec, et qu'il te voit manger la viande sacrifiée aux idoles, sa conscience qui est faible le pousse à pécher aussi. Et il dit que, et il dit ceci, regardez, je vais vous lire, 1 Corinthiens 8, verset 13, il dit ceci en conclusion de cela, il dit, ainsi, le faible périra par ta connaissance et le frère pour lequel Christ est mort. Et il ajoute, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience, vous péchez contre Christ. Manger de la viande sacrifiée, ce n'est pas un problème. Mais la manger, quand ça va toucher la conscience de l'autre, il dit, tu pèches contre ton frère et contre Christ. Donc je peux pécher en faisant quelque chose qui en soi-même n'est pas mauvais, n'est pas mal. Alors imaginez ce que cela doit être quand j'expose ici, comme Jésus dit, hein, quand on expose à l'adultère en divorçant, par exemple. C'est ce qu'il dit, hein, ce qu'il dit. Donc quand on divorce, on expose l'autre à l'adultère. Et donc, ça veut dire quoi, si on reste dans cet exemple-là. Quand on a une relation qui est difficile, etc., en tant qu'enfant de Dieu, on doit tout faire pour essayer de, pour chercher à rétablir les choses. Sinon, on pêche parce qu'on rompt une alliance qu'on ne doit pas rompre, on pêche parce qu'on expose quelqu'un d'autre à l'adultère, et puis ce qui arrive la plupart du temps quand les gens divorcent, c'est qu'ils veulent retrouver quelqu'un, et on pêche quand on se remarie avec quelqu'un d'autre. Vous imaginez ? Donc, et tout ça fait partie de ce que la Bible appelle l'impudicité qu'on doit bannir, contre lequel on doit lutter dans notre vie. Je dois donc faire attention à tout ce que je dis, aux conseils que je donne aux autres, à ma façon de me tenir, à ce que je regarde dans la pub, dans les films, dans les autres, la façon de m'habiller, ma façon de parler aux autres, les relations que j'entretiens avec les autres. Et puis, dernier point ici, pour terminer, il faut pouvoir reconnaître l'impudicité là où elle se niche. Hein. Dans notre pensée, parfois, l'impudicité, c'est le gros péché, la débauche, vraiment les choses... vraiment immonde, mais l'exhortation de notre texte nous pousse à considérer vraiment toute notre attitude, tous nos actes, toutes les petites choses dans notre vie qui peuvent nous conduire, les petites légèretés qui peuvent nous conduire dans le chemin de l'impudicité. Hein. Un petit copain par-ci, un petit copain par-là. On entend parfois des chrétiens maintenant dire oui, mais à l'église on trouve personne, donc on entretient une relation avec un jeune homme, une jeune fille qui n'est pas chrétienne. On doit faire attention à cela. Ça, c'est le chemin ouvert vers l'impudicité. D'accord. Donc il faut que nous soyons conscients et prier Dieu qu'il ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les choses où ça se cache et ne pas croire que nous sommes protégés contre tout ça, on est des chrétiens après tout, On peut faire des choses sans que ça nous affecte, pas du tout. L'apôtre Paul écrit ici à des chrétiens. Il écrit à des chrétiens qui sont associés à Christ, unis à Christ, et il leur montre combien il est important de lutter contre ce péché qui est très, très présent dans notre monde aujourd'hui. Alors, j'arrête là, mais j'ai mis un petit encadré ici. Pour vous, mes engagements devant le Seigneur, personnel. C'est toujours facile d'écouter, de dire pour nous, hein, oui, bon, c'est vrai, etc. Mais l'expérience montre que quand on ne prend pas d'engagement, on ne fait rien. Peut-être que Dieu nous montre, voilà, mais ça, c'est quelque chose que je devrais abandonner. Peut-être cette habitude-là, c'est quelque chose que je devrais abandonner. Ce soir même, il faudrait l'abandonner. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de... Ce n'est pas pour qu'on puisse dire les uns aux autres, c'est pour vous. Hein, vous mettez votre petit engagement devant le Seigneur sous votre papier, comme sujet de prière, que le Seigneur puisse vous montrer ce domaine ou ce domaine dans lequel j'ai besoin d'être vigilant. Et cela nous concerne tous, que nous soyons vieux, hein, vieux en âge, hein, que nous soyons jeunes, que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, que nous soyons tout jeunes. Les tout jeunes, ils ont des portables maintenant, ils font n'importe quoi avec. Hein. C'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Nous-mêmes, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses aussi. On sait par quel chemin il ne faut pas passer. Il y a plein de choses, plein de domaines. Ce n'est peut-être pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Mais que nous soyons mus par cette pensée que nous devons faire mourir ce qui dans nos membres est charnel, et en particulier l'impudicité. Alors que le Seigneur nous aide dans cela.